Professeur Harley, bonjour.
Bonjour Monsieur Poli.
Professeur Harley, aujourd'hui nous allons parler des syndromes antiphospholipides.
Eh bien oui, je voulais aborder cette question du syndrome d'antiphospholipides dans le cadre plus vaste des maladies auto-immunes. Le syndrome d'antiphospholipides a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il a été décrit dans les années 80 par des Français, qui étaient le professeur Soulier et Madame Marie-Christine Beaufat, comme étant associé à d'autres maladies auto-immunes et en particulier au lupus érythémateux disséminé. Ils avaient en effet remarqué dès cette époque que certaines femmes ayant un lupus érythémateux disséminé ne pouvaient avoir de grossesse menée à terme correctement car elles faisaient des fausses couches spontanées répétées, les rendant entre guillemets stériles, et par ailleurs elles faisaient des phlébites et quelquefois même des embolies pulmonaires. Et ils avaient remarqué l'existence d'anomalies biologiques associées très particulières, qui était un allongement du temps de céphalie inactivé, et puis l'existence d'une fausse positivité de la réaction à la syphilis. Alors on va faire un bond dans le temps pour parler maintenant de ce qu'on appelle le syndrome d'antiphospholipide ou SAPL, qui s'est bien entendu démembré sur le plan clinique et biologique. Et on s'est rendu compte qu'il s'agit bien d'une maladie auto-immune qui est définie par l'existence d'auto-anticorps, lesquels sont recherchés de deux façons. Au laboratoire d'immunologie, on retrouve des anticorps antiphospholipides et peuvent être recherchés également au laboratoire d'hémostase, au sein desquels on retrouve un allongement du TCA ou bien des tests qui permettent par sensibilisation d'observer qu'il existe un anticoagulant circulant de type lupique. Alors pourquoi ces éléments biologiques sont curieux? C'est qu'ils peuvent parfaitement s'accompagner de manifestations cliniques et c'est sans doute de cela qu'on va parler ensuite.
Absolument professeur, donc quels sont les symptômes qui sont attachés à cette pathologie?
Alors ces symptômes sont de deux ordres. Ils sont, et je l'ai dit en préambule, d'ordre obstétricaux. Et une façon d'exprimer ce syndrome d'antiphospholipide, c'est tout ce qui touche à la grossesse. En effet, ce SAPL peut s'exprimer sous la forme de fausses couches spontanées répétées, tellement répétées encore une fois que les femmes n'arrivent pas à procréer. Cela peut s'exprimer également sur des fausses couches tardives, voire des morts in utero, et quelquefois sous la forme de ce qu'on appelle les éclampsies ou pré-éclampsies. Vous voyez que dans le domaine obstétrical, le syndrome d'antiphospholipide est riche en manifestations cliniques. En dehors du domaine obstétrical, c'est la thrombose. La thrombose sous toutes ses formes, la thrombose veineuse, la phlébite, qui est une phlébite superficielle, qui est une phlébite profonde, qui est une phlébite d'organes, qui est une phlébite compliquée quelquefois d'embolie pulmonaire bien sûr. Et ce peut être également la thrombose artérielle, l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, la thrombose d'une artère destinée à un organe comme le rein, le foie ou la rate. Et dans ce cadre-là, ce sont habituellement des accidents de thrombose survenant chez des sujets souvent indemnes de tout autre facteur de risque, et en particulier de risque cardiovasculaire classique. On a donc l'habitude maintenant, lorsqu'il existe un accident de thrombose, encore une fois veineuse ou artérielle chez des sujets jeunes et en dehors des facteurs de risque habituels, de rechercher systématiquement au laboratoire s'il existe un syndrome d'antiphospholipide.
Quelle est la fréquence actuellement de cette pathologie en France?
Alors, initialement, bien sûr, on avait sous-estimé cette fréquence. On estime à l'heure actuelle que dans le cadre d'un groupe de personnes ayant fait un accident de thrombose, l'antiphospholipide, le syndrome d'antiphospholipide, est présent dans près de 15 à 20% des cas, ce qui est tout à fait considérable. Dans le groupe des patientes qui ont des fausses couches spontanées itératives, on dit que c'est de l'ordre de 9 à 12% des cas dans lesquels on retrouve un syndrome d'antiphospholipide.
Professeur Harley, est-ce que cette maladie a une expression un peu particulière qui doit être confirmée par un diagnostic aussi particulier?
Alors, vous voulez parler d'expression clinique particulière qui pourrait être autre que celle des éléments de thrombose ou d'accidents obstétricaux. Alors, on peut observer par exemple des accidents biologiques comme par exemple les thrombopénies, les baisses considérables de plaquettes qui, de façon curieuses et paradoxales, peuvent entraîner non pas des thromboses mais au contraire des hémorragies. Et puis on peut observer les conséquences à long terme, quelquefois, d'accidents thrombotiques très minimes et qui passent inaperçus. Et par exemple, il a été décrit plusieurs fois des accidents ou plutôt l'apparition d'une démence progressive chez des gens qui sont porteurs de syndrome d'antiphospholipide. On décrit quelquefois des troubles mnésiques considérables qui semblent être liés à cela également.
Quels sont les protocoles thérapeutiques, professeur, actuellement ?
Protocole thérapeutique, au cours des maladies auto-immunes, on a coutume de dire qu'il faut utiliser des médicaments immunosuppresseurs, comme par exemple dans le lupus ou dans d'autres affections auto-immunes que je ne citerai pas aujourd'hui. Eh bien, très curieusement, ces traitements, la corticothérapie ou les immunosuppresseurs divers et variés, n'ont aucune influence sur le cours évolutif de cette maladie, le syndrome d'antiphospholipide. Aussi, le seul moyen que l'on a de traiter un syndrome d'antiphospholipide, c'est, une fois le diagnostic fait, de proposer aux gens de leur donner un traitement anticoagulant. Et ce traitement anticoagulant doit être un traitement anticoagulant réel, tout à fait suivi par antivitamine K habituellement, de façon à prévenir un risque important qu'il court d'avoir à nouveau des accidents thrombotiques s'il ne prenait pas ce traitement par antivitamine K. En clair, ça consiste à dire à un sujet jeune de 30 ans qui a fait une phlébite et une embolie pulmonaire, c'est vous allez prendre un traitement par antivitamine K et vous allez le prendre pendant un temps long. Et quelquefois, dans les explications que l'on donne aux gens, on leur explique que c'est jusqu'à plus ample informé, c'est à vie, tant qu'on n'a pas trouvé un meilleur médicament que l'anticoagulant. Concernant les accidents liés aux grossesses, on sait que les antivitamines K sont contre-indiquées au cours de la grossesse, et ce sont habituellement des grossesses qui sont menées sous traitement par héparine associée à l'aspirine. Il faut bien avouer que ce traitement par aspirine et héparine permet à ces femmes qui, quelquefois, ont eu un nombre de fausses couches considérables de mener enfin à bien une grossesse. Et c'est vrai que c'est tout à fait valorisant de donner ce traitement.
Professeur Arlet, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des pistes dans des protocoles d'études destinées à trouver des molécules ou un médicament à ce syndrome ?
On aimerait bien vous donner quelques pistes. Il faut bien avouer que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer dans ce cadre-là. Il y a de nombreux laboratoires de recherche qui travaillent sur ces phénomènes thrombotiques. On n'a pas fait mieux à l'heure actuelle que de proposer ce traitement anticoagulant. Il y a quelques associations qui sont préconisées, comme l'association à l'aspirine, mais encore une fois, on tombe dans le domaine de l'antithrombotique, ou quelquefois l'utilisation de dérivés de la quinine. Mais encore une fois, pour l'heure, on n'a pas trouvé la cible réelle de cette histoire et je ne sais pas vous donner de pistes plus précises.
Professeur, allez, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, monsieur Pauli.